Il est 5h à Paris, 3h en temps universel et à Bamako. Merci d'écouter RFI. À la une de l'actualité ce matin, une légende de la musique malienne s'en est allée. Amadou Bagayoko est mort hier à l'âge de 70 ans. Moitié de l'inséparable duo Amadou et Mariam, il laisse derrière lui une immense carrière. Et ce matin, les réactions se succèdent, vous l'entendrez. H-1 avant l'entrée en vigueur des premiers droits de douane de Donald Trump. Mais déjà leurs effets se font ressentir. Les bourses du monde entier dévissent depuis deux jours. Et le président américain est formel, il ne changera jamais de politique. Dans l'actualité aussi, on est en Birmanie où malgré le séisme, la junte au pouvoir mène des opérations militaires contre ses opposants. Des frappes aériennes, disent les Nations Unies. Et puis la Seine va-t-elle bientôt pouvoir attaquer en justice ceux qui la ravagent? 50 Parisiens planchent sur cette question à partir d'aujourd'hui. On vous explique tout à la fin de ce journal. Il a chanté pour Barack Obama en 2009, ouvert la Coupe du Monde de foot en 2012 et fermé les Jeux Paralympiques l'an dernier. Le monde de la musique pleure ce matin la mort d'Amadou Bagayoko, le chanteur malien. Moitié du duo Amadou et Mariam s'est éteint hier à Bamako à l'âge de 70 ans. On le savait souffrant depuis plusieurs semaines, c'est un géant de la musique malienne qui s'en va. Une quinzaine d'albums, plus d'un million de disques vendus et même une nomination au Grammy Awards. Alors forcément, ce matin, Serge Daniel, les réactions sont nombreuses dans le monde de la culture.
Repose en paix, maestro, c'est la réaction de l'artiste congolais Fally Ipupa, peu après l'annonce de la mort du célèbre artiste malien. Je n'oublierai jamais son amitié, commente de son côté la star sénégalaise Youssou N'Dour. Sur son compte X, la ministre française de la Culture salue l'engagement et la générosité de l'homme. Rachida Dati ajoute, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris, Amadou était venu nous dire qu'il s'en allait en reprenant les mots de Gainsbourg. Les réactions sont nombreuses pour saluer l'artiste. Selon sa famille, il était depuis un moment alité. Amadou Bakayoko était aveugle comme son épouse Mariam. Ils se sont connus à l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako où ils ne tarderont pas à former un couple à la scène comme dans la vie. Derrière leurs lunettes fumées, ils feront le tour du monde au début des années 2000, début de notoriété, des prix, des médailles, notamment en France, du monde à leur spectacle. Et parmi les albums les plus connus, Dimanche à Bamako ou encore Folila. Amadou, mort dans sa 70e année, était un musicien talentueux, mais également un virtuose de la guitare. Serge Daniel, Dakar, RFI.
La vie et la carrière d'Amadou Bagayoko, on y revient évidemment en longueur sur notre site RFI.fr. Dans une heure, exporter aux États-Unis coûtera 10% plus cher pour une grande partie du monde. La première salve des droits de douane de Donald Trump entre en vigueur aujourd'hui. Des taxes qui plongent toujours les marchés financiers dans la tourmente. Wall Street a connu sa pire semaine depuis la pandémie de Covid. Les 500 plus grosses entreprises américaines ont perdu près de 10% en bourse en deux jours, mais Donald Trump l'assure, je ne changerai jamais de politique, ça c'est ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. L'ONU, elle, alerte, cette hausse des droits de douane va frapper les vulnérables et les pauvres le plus durement. L'Organisation des Nations Unies, qui s'inquiète aussi de la situation en Birmanie ce matin. Il y a tout juste une semaine, le pays était secoué par un puissant séisme, plus de 3000 morts et des centaines de blessés ensevelis sous les décombres. Et malgré la destruction, malgré les besoins humanitaires, la guerre civile se poursuit dans le pays. C'est l'alerte lancée hier par les Nations Unies, Jérémy Lanche. Elles accusent la junte au pouvoir d'avoir mené des attaques contre ses opposants.
Depuis vendredi 28 mars, jour du séisme, la junte a mené au moins 61 opérations militaires. Certaines ont eu lieu quelques heures seulement après le tremblement de terre. Des frappes aériennes avec des avions, mais aussi, c'est devenu une spécialité de la junte, avec des parapentes motorisées, comme l'explique James Rodever du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme.
En fait, ce sont des soldats équipés de parapentes avec des sortes de grands ventilateurs. Ils utilisent ça comme moteur pour survoler leurs cibles sur lesquelles ils lancent des bombes directement à la main. Le problème, c'est que ça ne fait aucun bruit, donc les gens ne savent pas quand ils arrivent. La plupart du temps, les attaques visent des civils pour terroriser la population et les forcer à fuir.
Et le cessez-le-feu avec les groupes rebelles n'y a rien changé. Au moins 16 attaques ont eu lieu depuis son annonce. Larguer des bombes après un séisme séisme est tout simplement ahurissant, dit encore le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Birmanie, Tom Andrews. L'ONU rapporte même que des civils venus aider aux opérations de secours ont été recrutés de force par les militaires. Pendant ce temps-là, l'aide parvient toujours au compte-gouttes, dans un pays largement fermé aux organisations internationales jusqu'ici, et où une bonne partie des sinistrés sont dans des territoires qui échappent au contrôle de la junte. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Et sur le volet de l'aide humanitaire, justement, Washington a débloqué 7 millions de dollars en plus pour la Birmanie. Déclaration du département d'État cette nuit, une aide qui doit permettre d'acheminer de l'eau, de la nourriture et d'assurer certains soins. L'armée israélienne intensifie ses opérations dans la bande de Gaza. Aux bombes lancées quotidiennement depuis la reprise des combats le 18 mars dernier s'ajoutent désormais les troupes au sol. L'État hébreu a lancé hier une nouvelle offensive sur Gaza. Une opération qui crée une situation extrêmement dangereuse pour les otages à Gaza, a dit hier le Hamas, le mouvement palestinien, dont deux membres ont été tués dans une frappe, cette fois dans le sud du Liban. Le Liban qui se réveille ce matin avec un nouveau gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaïd, a pris ses fonctions hier, l'occasion, Paul Khalife, de dévoiler ses priorités en matière financière.
Le principal souci de Karim Souaïd est de retirer le Liban de la liste grise du groupe d'action financière GAFI, l'institution chargée de fixer les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour atteindre cet objectif, le nouveau gouverneur de la Banque centrale s'est engagé à démanteler l'économie illégale. Même s'il ne l'a pas dit explicitement, c'est le Hezbollah qui est principalement dans sa ligne de mire. Le parti chiite dispose de son propre réseau bancaire appelé Al-Qard al-Hassan que les États-Unis et Israël souhaitent voir disparaître. Autre priorité de Karim Souaïd, la restitution intégrale et progressive des dépôts en commençant par les petits épargnants et en mettant à contribution les banques, la Banque du Liban et l'État. Il n'a pas cependant précisé qui supportera la plus grande part des pertes provoquées par l'effondrement économique et social, estimé à 76 milliards de dollars. Dans le passé, Karim Souaïd avait fait assumer à l'État la plus grande part de responsabilité dans la crise et a proposé de financer les pertes en privatisant le secteur public. Il serait aussi partisan de la vente des réserves d'or du Liban, dont la valeur est estimée aujourd'hui à 25 milliards de dollars. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Il y a encore beaucoup à faire pour les peuples autochtones. Les mots du président du Brésil hier, Lula, rencontrait l'emblématique chef Raoni. Il a également salué le rôle des peuples d'Amazonie dans la lutte contre le changement climatique. Mais c'est bien gardé d'aborder un sujet qui fâche, celui du projet d'exploration de pétrole offshore près de l'Amazonie. Mieux protéger les espaces naturels en leur accordant le droit de se défendre, notamment en justice. C'est l'objet d'une convention citoyenne qui démarre aujourd'hui à Paris. 50 habitants de la capitale française tirés au sort vont travailler sur la protection de la Seine. Comment sauvegarder le fleuve et sa biodiversité? Pauline Berger, parmi les pistes, accorder une personnalité juridique à la Seine.
Un espace naturel qui a des droits, ça existe déjà en Europe. La lagune espagnole de la Mar Menor les a obtenus en 2022, mais en France, selon l'avocate Vanessa Boussardo, ce n'est encore jamais arrivé.
La nature n'a pas de capacité à agir en justice. Il n'y a pas d'obstacle dans notre législation, qu'elle soit française ou européenne, pour aller dans cette direction, mais il appartiendra au législateur le moment venu de le décider.
Dans un premier temps, les citoyens seront formés par des experts et pourront effectuer des visites de terrain. Ensuite suivra une phase de débat, puis de rédaction de l'avis citoyen. Pour Pierre Rabadan, en charge de la Seine à la mairie de Paris, l'objectif est aussi de rapprocher les Parisiens du fleuve.
L'enjeu, il n'est pas uniquement environnemental et écologique, c'est un des aspects, mais il y a aussi un rapport à un fleuve qui aujourd'hui n'était pas connecté avec ses habitants, n'était plus connecté. Et cette reconnexion amorcée par la reconquête des berges de Seine doit aller demain plus loin. On a envie aussi de comprendre les attentes d'une partie de la population par rapport à cet axe central qui est la Seine.
À l'issue des rencontres, la proposition citoyenne sera présentée aux élus du Conseil de Paris.
Pauline Berger du service environnement de RFI, un mot de foot et de la Ligue 1. Hier, l'OGC Nice s'est incliné face au FC Nantes 1-2 et voit la Ligue des Champions s'éloigner. En Ligue des Nations, l'équipe de France poursuit son sans faute 3 victoires en 3 matchs pour les Bleus qui se sont imposés hier face à la Suisse 2-0. 5h10 à Paris tout de suite, c'est Accent du Monde sur RFI.